on laisse les gens s'installer, quand ils sont installés, on retire les chaises du premier rang. Comme ça.
Ils se retrouvent au premier rang.
Ça va voir.
Ah oui, c'est ça aussi.
À l'église.
Oui, c'est ça.
Oh, il y a REC.
Voilà.
J'ai enregistré.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de
sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embrasser. Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Amen. Voilà, au moment de commencer, une fois n'est pas coutume, je vais saluer, puisque Wilfried a la gentillesse d'assurer la diffusion des vidéos, ceux qui écoutent, parce que j'ai eu la joie d'entendre l'an passé des personnes qui me disaient, voilà, ils suivent la formation sur la formation biblique, et je sais qu'il y en a qui la suivent de très très loin, de pays lointains. Voilà, alors je pense à eux. Et c'est pour nous une motivation de travailler d'autant plus, parce qu'à Paris, on a des moyens de travailler, c'est bien que puissions le partager avec d'autres. J'ai bien conscience qu'il y a des séances qui sont quelquefois très denses, très, pour ne pas dire lourdes. Je vous rassure, je me mets à votre place. Voilà. Donc aujourd'hui, avec un peu de satisfaction, je me suis dit, j'espère que ce sera moins lourd, hein, je le pense. Il y avait dans un groupe de jeunes en paroisse, je leur avais dit, si à un moment j'emploie des mots trop compliqués ou que ça fait trop, vous faites tut. Voilà. Puis une fille m'avait dit, c'était au but de Chaumont, elle m'avait dit, mais je vais faire tut tout le temps. Alors, j'ai dit, bon, d'accord. Donc, c'est à moi d'alléger un peu. Aujourd'hui, la thématique est moins lourde. C'est vrai que la dernière fois, c'était l'ascension, la Pentecôte, des événements très importants. Voilà. Là, il s'agit de décrire la première communauté chrétienne. J'espère que la matière sera plus facile à recevoir. Enfin, pour terminer cette introduction, je vous rappelle que le principe de cette formation, qui est vraiment ouverte à tous, c'est qu'on essaye de lire, si possible, à l'avance, les textes que l'on voit. Au moins, on le fait au retour. Mais je vais, par exemple, faire référence tout à l'heure à un récit, le récit de l'histoire d'Anani et Saphir. Voilà, on n'a pas le temps de lire tout le texte, mais voilà, il faut connaître. Vaut mieux l'avoir lu. Et c'est ici l'objectif pour moi, c'est pas que vous écoutiez la bonne parole du Père Henri, c'est que vous ayez le goût de lire l'Écriture sainte, exactement comme ce qu'on a fait quand on était en Terre sainte. Le but, c'est de quitter la Terre sainte comme on quitte un cours biblique en disant, eh bien, maintenant, j'ai reçu l'Esprit Saint, je peux lire la Sainte Écriture et ainsi trouver de la nourriture, voilà, me préparer à la messe du dimanche. Enfin, voilà, que chacun trouve la manière de cette nourriture. Le Concile Vatican II nous a demandé de encourager les fidèles à se nourrir à cette lecture. Et donc, c'est ce que je vous recommande très fortement quand vous venez ici. Alors, vous vous souvenez que nous avons évoqué ça la dernière fois. Quand les apôtres ont posé la question à Jésus du rétablissement de la royauté en Israël, l'attente messianique basique des Juifs de ce moment-là, le Messie va venir, il va tout rétablir, tout va s'arranger. Jésus, au lieu de leur donner une leçon compliquée, parce que je pense qu'au fond de son cœur, ils disaient décidément, ils n'ont toujours pas compris, ils sont un petit peu bornés, mais on va au-delà, c'est pas grave, ils n'ont pas compris. Il donne une réponse. D'accord, vous attendez le rétablissement de la royauté d'Israël. Eh bien, comment Dieu va-t-il rétablir la royauté en Israël? Ça va être le don de l'Esprit Saint et l'envoi en mission jusqu'aux extrémités de la terre. Hein, réponse magnifique de Jésus. L'accomplissement des Écritures, ce sera dans cette annonce jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Eh bien, cette annonce jusqu'aux extrémités de la terre, cette mission qui va couvrir tout le livre des Actes des Apôtres, commence avec la jeune communauté chrétienne réunie à Jérusalem. Nous avons le démarrage de cette action de l'Esprit-Saint, de cette mission de l'Église, en regardant la jeune communauté chrétienne de Jérusalem. Donc, deux morceaux dans notre travail de ce soir. Tout d'abord, une description de la vie de la première communauté chrétienne. Et ensuite, nous nous arrêterons sur un passage plus précis, le témoignage de Pierre, ce fameux miracle de la belle porte. Hein, vous avez remarqué que je vous mets des belles photos à la fin. Hein, je me suis fait un peu plaisir grâce au voyage que j'ai fait avec des amis, prêtres, ou finalement sur les pas de Saint-Paul, d'un endroit à l'autre. Ben, à force de prendre des photos, je me suis dit je vais essayer d'en faire profiter le cours sur les actes des apôtres. Alors ça, c'est une photo prise à Jérusalem. C'est pas la photo du temple, puisque le temple a été rasé, mais il y a une maquette qui vous présente le temple, pas grandeur nature, mais presque, hein, qui vous présente Jérusalem. Et c'est là que se situe le miracle de la belle porte, dont nous parlerons tout à l'heure. Et j'essaye aussi de vous proposer des passages des pères de l'Église, des passages patristiques, ce qui, je vous ne cache pas, n'était pas tout à fait facile pour les actes des apôtres, parce que les actes des apôtres n'ont pas été très commentés par les pères. Voilà. Mais il y a quand même quelques perles que je suis heureux de vous partager. Voilà, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, la vie de la première communauté chrétienne. Ben, le travail est assez simple, j'allais dire, pour nous qui sommes des lecteurs, puisque Saint-Luc présente la vie de la communauté chrétienne à travers trois sommaires, hein, ce qu'on appelle des sommaires, des tableaux récapitulatifs. Un sommaire, c'est un tableau récapitulatif qui donne une vue d'ensemble de ce que vivaient les apôtres et les premiers chrétiens. Dans l'Évangile, vous avez des sommaires, quand les évangélistes nous disent « Jésus parcourait la Galilée et opérait de multiples guérisons », c'est ce qu'on appelle un sommaire. Voilà, à la différence d'un récit. Voilà. Là, il y a trois sommaires qui nous décrivent ce qu'était la communauté chrétienne. Et ces sommaires emploient un vocabulaire très très précis, hein, que nous allons voir. Voilà, trois sommaires au chapitre 2, au chapitre 4 et au chapitre 5. Le premier sommaire, acte 2, versets 42-47. Saint-Luc présente la communauté chrétienne à travers quatre caractéristiques sur lesquelles je vais m'arrêter. L'adhésion à l'enseignement des apôtres, la communion, le partage du pain et les prières. On peut ajouter au verset 43 la crainte et les miracles, hein, mais qui sont, j'allais dire, à un autre niveau. Donc ces quatre caractéristiques qui nous aide à mieux saisir ce que vivait profondément la communauté chrétienne. Tout d'abord, l'adhésion à l'enseignement des apôtres. Il s'agit d'adhérer à l'enseignement des apôtres parce que, pour entrer dans la communauté chrétienne, eh bien, il s'agit d'abord d'entendre la parole du salut. C'est par l'accueil de la parole que l'on entre dans la communauté chrétienne. Le Seigneur n'a pas accompli son œuvre salutaire de manière, j'allais dire, purement miraculeuse et extérieure à l'homme. Hein, Dieu a voulu s'adresser à notre cœur, notre intelligence, susciter notre foi, d'où l'importance de la prédication, hein, qui demeure encore aujourd'hui vivante dans l'Église. Hein. L'enseignement donné par les apôtres revêt une place de premier ordre. Alors, cet enseignement, hein, la didaké, est quelque chose de très spécifique, qu'il s'agit de bien distinguer de deux autres termes que l'on rencontre dans les actes des apôtres ou chez Saint-Luc. Il y a donc la didaké, l'enseignement, il y a le kérigme, kérugma en grec, et catéchésis. Alors le kérigme, c'est la proclamation de la parole qui est adressée à ceux qui ne sont pas chrétiens. Il en sera question très souvent dans les actes des apôtres. C'est un terme que vous employez sûrement, ceux qui font l'évangélisation. Un kérugma, le kérigme, kérudzein, ça veut dire proclamer. Je proclame. C'est pas une parole que l'on susurre, mais c'est une parole que l'on dit à haute voix. Hein? En présence de sœur Agathe, j'aime bien rappeler, et de Wilfried, j'aime bien rappeler que pendant le pèlerinage de Vézelay, pendant qu'on faisait des comptes rendus de discussions de groupe, hein, la bonne méthode occidentale, française. Alors nous, en discutant en groupe, nous avons parlé à propos de l'Esprit Saint, en disant que c'était très important, que l'Esprit Saint était très important. Puis il y a tout, vous savez, on est assis dans les herbes comme ça, puis on parle poliment, puis il y a quelqu'un qui dit plus fort, on n'a pas entendu. Hein, vous connaissez le schéma. Et puis plus loin de nous, il y avait le groupe de nos amis ivoiriens, hein, qui disait « L'Esprit est Seigneur et il est puissant !» Alors quelqu'un d'autre qui dit « Moi, je proclame que non seulement il est puissant, mais il est vraiment la troisième personne de la Trinité. » Si vous avez vu, au moins, eux, ils y croient. Hein. Voilà, c'était Kerutzein, c'était la proclamation. Hein. Ça, c'est bien que nous retrouvions ce sens d'une parole qui est proclamée. L'évangélisation, c'est pas uniquement quelque chose qu'on susurre dans le creux de l'oreille, c'est une parole qui est proclamée. Kerutzein, hein, proclamée. Qui s'adresse à ceux qui ne sont pas chrétiens. L'autre terme, un deuxième terme, qui justement qui n'est pas celui du sommaire, c'est l'instruction, catéchésis, hein, qui était donnée aux catéchumènes. Alors, kérugma, ben, ça a donné kérim, catéchésis, ça a donné catéchèse, catéchuména, hein, les catéchumènes. Hein, c'est une instruction qu'on va donner à ceux qui se préparent au baptême, parce que le baptême est reçu dans la foi, donc ça suppose une liberté, une connaissance de la parole de Dieu. Donc il y a besoin de cette instruction. Et il y a l'enseignement, hein, ce sont des instructions, mais qui sont données à ceux qui sont déjà baptisés. On peut dire que c'est le catéchisme que reçoivent ceux qui ont reçu le baptême. Hein. Un enseignement qui était basé sur les paroles et les actes de Jésus auxquels Saint Luc fait référence dans son introduction, et l'enseignement aux apôtres, hein, basé aussi sur les paroles que Jésus avait adressées plus largement à tous les aux disciples et aux témoins de la résurrection. Voilà, ça ne pose pas trop de difficultés, mais c'est bien de voir que cet enseignement des apôtres est tout à fait central. Hein, dans notre manière de comprendre l'Église, il y a toujours cette place donnée à la parole, à l'enseignement, et qui est fondamentale. On s'adresse à des intelligences, à des libertés pour susciter la foi. Deuxième aspect, c'est la communion. Hein, la communion. Alors, le terme est évidemment d'une très très grande importance, également dans l'ensemble des actes des apôtres. Hein, voilà, fidèle à la communion fraternelle. Fidèle à la communion fraternelle. Le terme grec, c'est koinonia. En fait, le terme, on le trouve dans des contextes très variés, et il peut avoir plusieurs sens. J'en relève cinq à la suite de l'exégète Jacques Dupont. Il y a d'abord l'unité entre les personnes. Voilà, une vie fraternelle, une charité fraternelle, l'unité entre les personnes. Deuxièmement, il y a quelque chose d'un petit peu plus objectif, plus matériel, c'est le partage, soit des responsabilités, soit des biens matériels. Troisième sens, la communion eucharistique. On le trouvera également, koinonia, d'ailleurs, le terme aujourd'hui est employé souvent pour la communion eucharistique, hein, ce serait le même sens que la fraction du pain. Je reviendrai tout de suite sur le terme de fraction du pain. Quatrième sens, la communion hiérarchique. La communion se réalise par le lien d'obéissance aux apôtres. Et enfin, plus tard, on trouvera le terme de communion, de koinonia, au sujet de la relation entre les différentes communautés chrétiennes. Vous voyez, aujourd'hui, on va dire les Melkites, les Maronites, ben, ils sont en communion avec les chrétiens latins, par exemple. On est en communion avec différentes communautés chrétiennes. Alors, on ne peut pas trancher dans un sens exclusif, même si on voit bien qu'il y a l'idée d'un partage fraternel, et il parlait de la communion fraternelle, un partage fraternel entre les chrétiens qui va se traduire de façon assez concrète. Je pense qu'il faut exclure le terme de la communion eucharistique parce que il est question aussitôt après de la fraction du pain qui désigne l'Eucharistie. Les deux termes, évidemment, consonnent l'un avec l'autre, mais ils ne peuvent pas désigner la même chose. Luc ne peut pas dire ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion eucharistique et à la communion eucharistique. Ce n'est pas très logique. Donc, ce n'est pas le sens de l'Eucharistie ici, c'est plutôt, très probablement, cette communion fraternelle, le partage des biens matériels entre les chrétiens, peut-être même le partage des responsabilités, non comme mise en œuvre d'un idéal social, mais comme l'expression de l'unité dans la charité. Il y a, je vais revenir dessus abondamment tout à l'heure, mais il y a cette la mise en œuvre d'un idéal plutôt de charité qui prend sa source dans la foi. Alors précisément la fraction du pain. La fraction du pain. C'est un geste qui vient du judaïsme, qui fait partie de la célébration de la Pâque juive. Le geste de rompre le pain, ça fait partie du rituel pascal, le séder pascal. Si vous allez chez des juifs, il y a toujours aujourd'hui la fraction du pain. Jésus, les apôtres l'ont pratiqué. Mais, d'après les évangiles, le geste a acquis un sens technique assez précis. La fraction du pain, en grec klasist ou artou, artos le pain, ce geste a été associé au culte eucharistique. On se souvient du dernier repas de Jésus avant la Passion. Jésus a rompu le pain avant de le distribuer aux disciples. Ça vous dit à tous quelque chose. Et ce geste, il l'avait déjà posé. À quel moment d'ailleurs? Parce que j'entends souvent quand on explique Saint-Luc, d'ailleurs j'ai dû l'entendre ici quand j'ai parlé de Luc 24. Est-ce que vous vous souvenez de l'explication que j'avais donnée au mois de mai l'année dernière? Je ne sais pas si j'avais expliqué. Comment se fait-il que les disciples d'Emmaüs qui n'étaient pas présents à la scène, Jésus rompt le pain et ils le reconnurent? Ah! Une énigme. Pardon? Eh bien voilà, la multiplication des pains. Et on a dans la multiplication des pains les mêmes quatre verbes chez Saint-Luc et dans les évangélistes, dans les évangiles, quand vous avez des séquences de verbes qu'on retrouve régulièrement, on se dit il y a un code. Voilà, Jésus prend le pain, il le bénit ou bien il rend grâce, il le rompt et il le donne. Voilà, ça devient des termes techniques. Prendre, bénir, rompre, donner. Voilà. Donc les disciples d'Emmaüs avaient vu Jésus faire ce geste à la multiplication des pains. Évidemment, quand Jésus pose ce geste pendant le repas pascal, il y aura les paroles, il y aura le cadre, etc. Et ça va changer d'une certaine manière de nature. Mais Jésus se fait reconnaître. Eh bien, pour les chrétiens, c'est un geste de reconnaissance. Le terme de fraction du pain devient un terme technique qui va prendre une signification plus large que simplement le rite initial, avant de partager, on fait la fraction, ça va désigner l'ensemble du repas eucharistique par lequel on reconnaît Jésus. Le sens de fraction du pain dans les Actes des Apôtres est l'équivalent d'une désignation plus ancienne, la première désignation de la messe, premier mot. Le terme de messe, c'est beaucoup plus tardif. On l'a attesté dès le IVe siècle, mais je pense que c'est plus au Moyen-Âge qui s'est développé. La première désignation de la messe, c'est dans, ne regardez pas votre feuille, parce qu'il y a la réponse, c'est trop facile. Saint-Paul, évidemment. C'est pas, alors, missa, c'est l'envoi. Ça, c'est le terme de la messe.
Le repas du Seigneur.
Voilà. Qu'on a dans la première aux Corinthiens, qui est antérieure aux Actes des Apôtres. Les lettres de Saint Paul, c'est les années 55-60, alors que les Actes des Apôtres ont été écrits beaucoup plus tardivement, vers 80, comme nous l'avons dit il y a quelque temps. Donc la première désignation de la messe, c'est le repas du Seigneur. Mais l'expression « fraction du pain » est une expression qui est équivalente. Qui est équivalente, c'est bien le geste rituel liturgique de l'Eucharistie. Voilà. Alors ensuite, on a essayé de recomposer. Vous avez des auteurs tout à fait passionnants, comme le père Étienne Naudet, qui est dominicain, ou des historiens de la liturgie, qui ont essayé de reconstituer, Murphy O'Connor, qui ont essayé de reconstituer les premières liturgies chrétiennes. Hein, c'était un culte domestique, évidemment, il n'y avait pas d'église. Hein, ça se déroulait dans les maisons, hein, comme d'ailleurs le rituel pascal pour les juifs. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme de fraction du pain nous rappelle qu'il s'agit de manger quelque chose. Évidemment, c'est l'Eucharistie, mais il s'agit aussi de manger du pain. Donc, il y a un repas. Et on voit bien dans les Actes des Apôtres que la liturgie, ce que nous appelons le sacrement, et qui était le sacrement, mais qui n'était pas désigné comme tel, le sacrement était associé à un repas fraternel, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les agapes. On n'imaginait pas un culte eucharistique sans le repas fraternel. Là, nous avons beaucoup à apprendre des Actes des Apôtres sur le lien entre la charité qui existait entre les membres de la communauté et le rituel eucharistique. L'Église a beaucoup insisté, avec raison et heureusement qu'elle l'a fait, sur toute la dévotion, l'adoration que nous devons vis-à-vis de l'Eucharistie dans une démarche personnelle. Jésus, je t'adore, présent dans le sacrement, l'acte de foi. Mais on a fini par oublier un petit peu cette dimension de vie fraternelle. Quand monsieur le curé vous propose un apéritif à la fin de la messe, il y a une intention profondément théologique et tout à fait saine qui retrouve où c'est le repas du dimanche. Pardon ? C'est les Corinthiens qui l'ont dit. Et oui, exactement, c'est les Corinthiens. Bravo. Et on a dans la lettre, l'épître aux Corinthiens, vous avez tout à fait cette thématique qu'on ne développe pas ce soir, mais la charité nous est donnée dans le Christ, dans l'Eucharistie, dans le sacrifice du Christ, mais entre ceux qui ont participé au même corps, eh bien, cette charité va s'exprimer à travers le repas. Pour ça qu'il faut soigner le repas du dimanche après la messe et que voilà, il y a ce côté festif et ce côté fraternel qu'il ne faut pas négliger. Je vois bien qu'à certains moments, ça nous a fait un peu sourire parce qu'on disait, mais on a horizontalisé, on parle uniquement de la communauté de frères et tout. On en a un peu souri, peut-être qu'il y a eu des excès, mais il y a une intuition quand même qui est juste, qui est que cette Eucharistie doit s'exprimer dans des liens fraternels entre ceux qui ont participé au même repas, à la même liturgie. Alors assez vite dans l'histoire de la liturgie, ce lien entre l'Eucharistie et les repas fraternels, ça a été les deux ont été bien dissociés. Les deux ont fini par être dissociés. Mais ça nous projette au-delà des Actes des Apôtres. Enfin, les prières. Alors, les premiers chrétiens constituent une communauté qui prie. Vous vous souvenez, le début des Actes des Apôtres, on les voit tous réunis autour de la Vierge Marie, image assez idéale, mais réelle, très belle, une communauté qui prie. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'assidus à la prière, de façon générale, mais assidus aux prières, au pluriel, qui semble désigner quelque chose de précis. Probablement une référence aux prières du Temple. Les prières du Temple de Jérusalem mentionnées au verset 46. Les chrétiens, les premiers chrétiens ont continué de fréquenter le Temple. On verra ça à la fin des Actes des Apôtres. Paul, au retour de mission, alors même qu'il a cessé, il a un peu pesté contre ses frères juifs en disant « Vous ne voulez pas m'accueillir, donc je vais vers les païens », n'empêche qu'il revient à Jérusalem, il va au Temple. Donc les premiers chrétiens ont toujours gardé ce lien avec le Temple. On n'imaginait pas, ni les chrétiens ni les juifs, on n'imaginait pas que cette petite communauté des disciples de Jésus, cette grande communauté des disciples de Jésus, puisqu'elle a vite grandi, que cette communauté existe en dehors du peuple d'Israël. Ils sont juifs, ils vont accueillir des païens, mais on reste quand même dans la perspective d'un lien toujours avec le judaïsme, au moins jusqu'à la destruction du Temple. Donc, ils participent aux prières qui se font au Temple. On va voir Pierre et Jean, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc ce tableau qui semble donner de manière assez complète ce qui pouvait caractériser la première communauté chrétienne, cette écoute de la parole, cette communion fraternelle, le centre, le cœur, c'est la célébration de l'Eucharistie et la participation aux prières avec leurs frères juifs. Le deuxième sommaire, au chapitre 4, nous dit une chose, je vais m'arrêter dessus, hein, je ne vais pas parler de l'ensemble du sommaire, mais cette expression « un seul cœur et une seule âme hein, ». C'est vraiment un résumé de ce que vivait la première communauté chrétienne. Alors je propose la traduction suivante, hein, je pense que c'est Jacques Dupont qui doit la suggérer, ou je ne sais plus trop quelle exégète, « le cœur et l'âme de la multitude des croyants étaient un », au singulier, un peu étonnant. Voilà. La traduction qu'on a habituellement, c'est « la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme hein, », dans la Bible de Jérusalem et dans la Tobe. Hein. Alors en réalité, si on lit attentivement le texte, le sujet de la phrase, c'est « le cœur et l'âme hein. ». Le cœur et l'âme de la multitude, hein, qui est un complément du nom, et Saint Luc termine la phrase hein, avec le numéral 1, hein, le cœur et la multitude des croyants étaient un. Donc il y a cette insistance sur l'unité, une unité qui réside dans le cœur et l'âme. Alors on s'est demandé comment il pouvait y avoir ce singulier alors qu'apparemment, il y a deux sujets, le cœur et l'âme. Alors, selon l'exégète Jacques Dupont, hein, il y a le cœur qui fait partie du registre biblique, hein, le lev en hébreu, lev, hein, libi, hein, mon cœur, hein, et l'âme hein, qu'on trouve dans la pensée grecque. Hein. Quand on dit une âme, hein, dans la pensée grecque, dans le monde grec, ça veut dire l'unanimité. On a ça chez Aristote, par exemple. Donc il ne s'agirait pas de deux composantes différentes et complémentaires de l'être humain, hein, deux organes ou deux parties de la personne, mais la même réalité dans deux langages, deux cultures différentes. Et c'est vrai que Saint-Luc appartient bien sûr à ce monde culturel grec, mais aussi ce monde biblique hein, du judaïsme. On peut citer aussi, peut-être que la solution est plutôt là, dans le schéma Israël, Moïse exhorte Israël à aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. En tout état de cause, ce que nous dit Saint Luc, c'est que l'unité entre les croyants est fondamentalement une réalité intérieure, hein, avant de trouver une traduction extérieure. Le cœur et l'âme, hein, qu'il s'agisse exactement de la même chose ou pas, il s'agit de ce qui fait le centre de la vie de la personne, hein, cette intériorité qui adhère profondément à la parole du Christ et qui fait cette unité. On a un petit peu cette image qui sera développée par un moine du désert de Gaza au 4e ou 5e siècle, hein, Dorothée de Gaza. Il dit, c'est comme une, je crois que c'est Dorothée de Gaza qui a cette image, comme les rayons d'une, alors il ne dit pas d'une bicyclette, il dit les rayons d'une roue de je ne sais pas quoi, de brouette, voilà, ou d'un char de guerre. Hein. Plus les rayons sont proches du centre, et plus ils sont proches les uns des autres. Voilà. Hein. Eh bien, la fraction du pain, l'Eucharistie, et ce qui est le cœur de la vie des croyants, eh bien, plus les gens sont près de l'Eucharistie, plus ils sont proches les uns des autres. Hein, ça, c'est une image que, dans une communauté monastique, hein, on est tous proches de l'Eucharistie, c'est ça qui nous rapproche. Voilà. Le cœur et l'âme étaient un parce que le cœur et l'âme eh bien, adhèrent pleinement à Jésus-Christ. Troisième sommaire au chapitre 5. Alors je ne reprends pas ce que dit chaque sommaire parce que ce serait un peu long, mais je vais m'arrêter à un aspect intéressant du troisième sommaire, hein, troisième sommaire qui souligne le pouvoir des apôtres d'accomplir des miracles. Hein, ce troisième sommaire rend compte de la croissance de l'Église. Hein, des croyants de plus en plus nombreux s'adjoignaient au Seigneur. Hein, la communauté est une et elle ne cesse de s'élargir. Hein, ce n'est pas une unité qui est repliée sur elle-même, c'est comme une dilatation, une ouverture. Hein, ça marque beaucoup ce que dont nous parlons aujourd'hui, ce thème de l'unité et en même temps de la croissance. Et c'est un phénomène qui est présent dès la Pentecôte. Dès la Pentecôte, il y a l'Esprit Saint qui est donné et Pierre se met à prêcher aussitôt. Dans le même mouvement, l'esprit d'unité va habiter le cœur des apôtres, mais il y a une concomitance avec la prédication. Le signe de la prédication, le signe du don de l'Esprit Saint, le signe du don de l'Esprit Saint, c'est le fait que Pierre se met à prêcher. Voilà. Donc, cette croissance de l'Église, hein, avec un petit détail important, chapitre 2, verset 41, furent ajoutées en ce jour-là environ 3000 personnes, hein, un passif, hein, furent ajoutées, hein, un passif qui veut dire c'est Dieu qui donne la croissance. Ce n'est pas Pierre et les apôtres ajoutèrent du monde, mais furent ajoutées, hein, 3000 personnes. Donc c'est Dieu qui donne la croissance. On retrouvera en d'autres lieux ce type de sommaire sur la croissance de l'Église. Alors évidemment, si on veut, si on pense trouver là une description exacte, factuelle de ce qui s'est passé, évidemment non. Les choses se sont passées de façon plus complexe, plus, il a fallu du temps, et il y a évidemment une simplification, mais c'est le propre d'un sommaire. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un sommaire va nous dire l'essentiel. Hein. Il y a peut-être une exagération sur les chiffres. Mais un regard plus global et un regard honnête, hein, sur la croissance de l'Église nous conduit à y voir en fait une réalité. Pourquoi ? Parce que Saint Luc, lui, en a été le témoin. Saint Luc a vu cette Église, quelques dizaines d'années après sa naissance, cette Église qui de fait était répandue. Et lui-même en est le témoin. Lui qui est de culture grecque, qui n'appartenait pas au petit monde des Juifs de Jérusalem. Donc Luc lui-même est témoin de cette expansion qui est réelle, même si elle est passée par des chemins beaucoup plus tortueux, difficiles, d'ailleurs comme on va le voir tout à l'heure. Il y a eu des crises, hein, Ananie et Saphir, mais des crises qui, au moins au départ, ont pu être vite résolues. Hein. Alors à ce sujet, et je vais terminer sur les sommaires. À ce sujet, il faut souligner ces deux faces, finalement, de la réalité de ce que vit la communauté chrétienne. À la fois la bonne réputation dont jouissent les chrétiens auprès du peuple, ils ont une bonne réputation. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est qu'ils ont une bonne réputation, mais on a l'impression que les gens qui le regardent les tiennent un peu à distance. Tout le monde n'ose pas forcément les rejoindre. On les admire, on les regarde. Ce sont des chrétiens, des disciples de Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt pour autant à les suivre. Voilà. Donc il y a une communauté qui est comme mise à part, hein, et puis avec, malgré tout, cette expansion dont j'ai parlé. Mais, au même moment, il y a une opposition qui commence à naître, hein, de plus en plus manifeste, avec l'arrestation des apôtres. Hein, première arrestation, vous pouvez comparer les récits d'arrestation, hein, au chapitre 3 et au chapitre 4. Hein. D'abord, ça se commence, c'est des petites recommandations, ensuite c'est une admonestation, et puis ça ira jusqu'à la persécution et la mise à mort d'Étienne. Il y a une amplification de cette opposition, et finalement la persécution de pas simplement d'Étienne, mais aussi de la communauté chrétienne, qui va être l'occasion de l'ouverture de l'évangélisation au-delà de Jérusalem. Une amplification qui va créer une crise, et cette crise va être décisive, et cela, nous en parlerons la fois prochaine ou la fois suivante. Alors, je vais m'arrêter maintenant sur une question importante, celle de la possession des biens, qui est un sujet très important dans les Actes des Apôtres, pour comprendre la nature de la première communauté chrétienne. On a souvent, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être même que vous l'avez dit, présenté la communauté chrétienne comme une sorte de société communiste réussie. Toujours amusé cette manière que les chrétiens, pleins de générosité, ont eu pour dire finalement les communistes et les chrétiens, c'est la même chose, on a un idéal communautaire. Voilà, d'abord, je ne sais pas si tout le monde montre qu'il connaît bien le communisme, hein, pas tout à fait ça. Et puis, dire que c'est un idéal communiste réussi, ça me semble un petit peu court. Hein. C'est vrai que quand on a la description de Saint-Luc, tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Voilà, lisez la phrase, dites-vous, je le mets en pratique. Voilà. Hein. Là, c'est le kolkhoze, je ne sais pas quoi, on va vivre un vrai kolkhoze, un kolkhoze chrétien, hein, merveilleux. Hein, on va faire le collectivisme. Hein. Et, ou encore, hein, dans un autre sommaire, entre eux, tout était commun. Comme vous le devinez, à travers le ton de voix que j'emploie, vous avez deviné que ce n'était pas tout à fait ça, hein, que ce n'était pas très sérieux, hein, et que cette manière de présenter les choses est assez simpliste. Hein. C'est vrai que les disciples ont été fidèles à l'enseignement et à l'exemple de Jésus, qui, ça c'est incontestable, a vécu la pauvreté. Et il a enseigné à vivre cette pauvreté. Et les premiers chrétiens ont vécu cet idéal de détachement et de pauvreté. Et c'est un thème qui est important chez Luc, plus chez Luc que chez les autres évangélistes. Hein, Luc insiste beaucoup sur la pauvreté matérielle. D'ailleurs, dans les Béatitudes, là où saint Matthieu dit « heureux les pauvres en esprit », Luc dit « heureux les pauvres » tout court. Donc, on devine bien qu'il y a l'idée d'une pauvreté matérielle réelle. Un thème cher à Luc, qui signifie une sorte de contestation de l'ordre du monde. On dirait aujourd'hui une contre-société chrétienne qui est portée par l'espérance dans la possession des biens éternels. Le pape François nous a heureusement rappelé, à propos de l'écologie, qu'il y a une sobriété chrétienne qui a toute sa noblesse, ne pas chercher à posséder plus que nécessaire. Donc la pauvreté est un thème qui est très noble et qui est central dans les évangiles. Mais, et ça c'est fondamental, s'il y a une mise en commun, celle-ci est une démarche volontaire. Voilà. Dans le communisme, je crois que tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à moi. Enfin, il y a tout un système très compliqué où on arrive à ne plus rien avoir du tout. Chez les chrétiens, il s'agit d'une démarche volontaire. La propriété n'est pas abolie. Saint Luc dit par exemple « Nul ne disait sien ce qui lui appartenait ». C'est beaucoup plus subtil que de dire « Personne n'avait plus rien ». Saint Luc ne dit pas ça. Il dit « Ce que chacun possédait, il estimait que ce n'était pas sa seule possession. » Autrement dit, c'est destiné à tous. Je vais au-delà de l'exégèse et de la lecture de la Bible, mais ça va dans le même sens. Un des principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est la destination universelle des biens. Nos aïeux au Moyen-Âge et encore après nous ont appris que quand on reçoit un héritage, contrairement à la conception moderne, quand on reçoit un héritage, une maison, des objets, des terres, n'importe quoi, le but, c'est pas de dire « c'est pour moi, j'en fais ce que je veux », mais si je le reçois, c'est parce que j'ai une responsabilité pour mes enfants, pour la société, pour le partage. Donc ça, c'est une conception tout à fait chrétienne. La propriété n'est pas abolie, mais elle est comme orientée vers l'idée d'un partage volontaire, libre. Je mets à disposition. Chacun reste propriétaire de ce qu'il met au service des autres. Alors, on pourrait se poser une question, une petite parenthèse. Est-ce que la possession absolue telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans notre culture et dans notre droit est d'un point de vue chrétien quelque chose de complètement légitime? Évidemment, je peux jouir de ce que j'ai, mais si je vis toute ma vie au milieu de biens immenses sans en faire jamais profiter les autres, on peut se poser des questions. Enfin, je pense que l'Église a la réponse. Voilà.
Aujourd'hui, notre pain de ce jour.
Notre pain de ce jour. Donc, ça veut dire que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et c'est lié au thème de la pauvreté, tout à fait, qui nous fait faire confiance à la Providence. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. On a rapproché aussi cette thématique, entre « tout était commun » du thème grec de l'amitié. On trouve ça chez des exégètes. C'était rien d'autre que la traduction de l'idéal grec de l'amitié. « Entre amis, tout est commun ». On a ça chez Platon, dans la République, ou chez Aristote, « Éthique à Nicomaque ». Il y a plusieurs références, je ne vous ai pas mises ici. Mais on le voit en plusieurs lieux, au moins l'Éthique à Nicomaque, voilà, et la République. Mais c'est vrai que si on peut qualifier les chrétiens d'amis, je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait opposés, c'est une thématique chez saint Jean, je vous appelle ami, voilà. En réalité, chez saint Luc, ils sont d'abord définis comme croyants. Ce n'est pas l'idéal grec de l'amitié, ce sont des croyants, c'est comme ça qu'ils sont nommés dans les trois sommaires. On n'emploie pas encore le mot de chrétien, on emploie le mot de croyant. Et c'est à ce titre de croyant, c'est à cause de leur foi qu'ils partagent ce qu'ils possèdent. La base de la mise en commun, ce n'est pas l'amitié, au sens grec, ni un idéal collectiviste, vu selon notre culture contemporaine. La base de la mise en commun, c'est la foi. Foi commune, espérance commune, qui entraîne une communauté plus large, qui s'étend au bien temporel. Et ça, il faut bien comprendre que cette mise en commun, et la manière de mettre en commun, de vivre, finalement on retrouve le terme de communion, cela touche la nature même de la communauté chrétienne. Ce qui fait la nature même de la communauté chrétienne, ce qui fait son unité, c'est l'Esprit Saint, une unité qui se traduit par le partage des biens, hein, qui n'est pas une fin en soi, qui n'est pas une réalisation qui se suffit à elle-même, hein, c'est l'expression de quelque chose de beaucoup plus profond, le don de l'Esprit, hein, qui est confié aux apôtres et qui leur demande de vivre dans cette charité. Et ça, c'est un point qui est souligné dans l'histoire de Ananie et Saphire. Je m'y arrête très rapidement. Ce qui est reproché à Ananie et Saphire, c'est étonnant quand même, ce pauvre gars qui arrive devant Saint-Pierre et, blam, il meurt aussitôt après le petit dialogue, pression d'un jugement et une sentence, une punition. Il n'a pas le temps de se retourner, de demander un avocat. Mais qu'est-ce que Saint-Pierre lui a... Qu'est-ce qui lui est reproché? C'est pas d'avoir vendu un champ. C'est pas ça qui lui est reproché. C'est d'avoir menti à l'Esprit Saint. Pierre dit bien qu'il était libre de garder son bien. Il était libre de garder son bien. Et encore une fois, les apôtres, les disciples continuent de posséder des biens. Mais il a menti. Satan, ce que nous dit Saint Luc, c'est que Satan est entré dans son cœur. Satan, c'est le diviseur. À travers Ananie et Saphire, en entrant dans le cœur d'Ananie et de Saphire, Satan vient diviser la communauté. Or, la division, eh bien, c'est le contraire de ce qu'est la communauté, c'est-à-dire une unité dans l'Esprit Saint. C'est une œuvre de destruction que Satan fait en mettant le mensonge. La communauté était un seul cœur et une seule âme, et le principe de cette unité, c'est l'Esprit Saint. Eh bien, on retrouve le thème de la Genèse, où l'homme et la femme vont conspirer ensemble, comme Ananie et Saphire, pour faire mentir Dieu, pour faire mentir l'Esprit Saint, pour diviser. C'est l'œuvre du diable, le diabolos, c'est celui qui divise. L'unité originelle de l'homme avec Dieu, de l'homme et de la femme, et de l'homme à l'intérieur de lui-même, cette unité est brisée. Et là, c'est la communauté chrétienne qui, par le mensonge, va être brisée. Et le verdict, la mort d'Ananie puis de Saphire, ce n'est pas une punition décrétée par Pierre, mais c'est le fruit même du mensonge. C'est ce qui nous est dit déjà dans le livre de la Genèse. C'est le verdict, c'est le fruit même du mensonge qui mène à la division et à la mort. Quand l'homme est coupé de Dieu, il meurt. Vous voyez, cette histoire d'Ananie et Saphire qui illustre que la communauté chrétienne ne peut vivre que dans cette unité choisie, voulue, s'exprimant à travers le partage des biens ou la destination commune des biens que l'on possède, et que si la division, le mensonge entre parmi les membres de la communauté, eh bien, c'est contraire à l'œuvre de l'Esprit Saint. Et le résultat, c'est la mort. À la fin, je termine, on voit le chapitre 3, et là, on aura largement le temps des questions. Alors, deuxième partie, le témoignage de Pierre. Là, on a eu ce tableau à travers les trois sommaires qui nous aide à entrer dans ce qui fait le cœur de la communauté chrétienne. Maintenant, on va davantage reprendre un texte narratif, un récit, dans lequel on va voir quelle est la mission de la communauté chrétienne s'exercer. Évidemment, il y a cette unité, mais l'unité de l'Église n'est pas une fin en soi. La communauté n'existe pas pour elle-même, mais pour témoigner du Christ Sauveur. Une communauté n'existe jamais pour elle-même, mais pour témoigner du Christ Sauveur. Le caractère missionnaire de l'Église. Et justement, le premier sommaire fait état des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Chapitre 2, verset 43. Il y avait de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Eh bien, c'est ce qui illustre le récit du miracle de la belle porte. Je vous ai montré la photo avec le lieu probable où ce miracle a eu lieu. Voilà, tout d'abord le miracle et ensuite l'arrestation et la libération. Je vais m'attacher à un élément marquant du récit, parce que Luc écrit de façon assez remarquable, il choisit les mots, et tout se joue autour du regard. Tout se joue autour du regard. Pierre et Jean montent au temple pour la prière, comme je disais tout à l'heure, ils vont au temple, hein. Les prières de chaque heure, il y avait la prière à la troisième heure, à la sixième heure, à la neuvième heure. Or, on apporte un impotent de naissance qui voit Pierre. Voilà. Regarde l'impotent sur Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Un impotent qui regarde deux apôtres qui ont une très bonne réputation, il se dit, ils vont m'apporter la guérison. Donc, la problématique est déjà posée. Il y a aussitôt après le regard de Pierre et Jean sur cet homme. Pierre fixa les yeux sur lui. Et Pierre dit à cet homme, regarde-nous, alors que l'homme les regardait déjà. Donc c'est un autre regard que demande Pierre. Regarde-nous. Alors, il y a deux interprétations qui en fait vont ensemble. La première, c'est, arrêtez, hein, on est au temple, les apôtres, ils vivent un certain idéal de pauvreté. Je ne sais pas si on se lavait autant à l'époque qu'aujourd'hui, si les lessives étaient aussi puissantes que Dash ou c'est quoi les lessives? Voilà, homo ou je ne sais pas quoi. Hein. Regarde-moi. T'as vu comment je suis? T'as vu comment je suis sapé? Je suis comme toi. Attends. Hein. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis du même niveau que toi. Hein. N'attends pas de moi que je n'ai pas d'argent ou d'or à te proposer. Ah, il le dit, je ne suis pas là avec un faiseur de miracles. Hein. Je suis avec ma pauvreté. Voilà, je suis avec ma pauvreté. Qu'est-ce que tu regardes quand tu me regardes? Est-ce que tu attends quelqu'un qui va arriver avec un coup de baguette magique pour te sortir de ta situation? Mais je crois qu'il y a une deuxième interprétation symbolique qui correspond bien à la première. C'est « Regarde-moi parce que en me voyant, ce n'est pas moi, Pierre, que tu regardes, mais c'est l'Église. C'est le mystère de l'Église. Ce regard est un regard de foi et c'est au nom du Christ que je vais t'apporter la guérison. » On peut dire le premier sens qui est assez factuel, matériel et tout à fait probable, revient à dire, si tu me regardes, ne te trompe pas, ce n'est pas à cause de ma propre puissance que tu vas trouver la guérison. Le deuxième sens, c'est « Aie un regard de foi et reconnais que c'est l'Église, à travers moi, qui est là, auprès de toi, qui agit au nom du Christ. » Avoir un regard juste, qui n'est possible que par la foi, c'est Jésus qui opère la guérison. Verset 6, « Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen marche. » Jésus-Christ, le Nazoréen, c'est-à-dire référence à Jésus de Nazareth. Ce n'est pas l'humanité de Pierre, c'est l'humanité de Jésus. Mais Jésus, le Christ, celui qui a été oint de l'Esprit-Saint. Et Pierre va faire comprendre la même chose à la foule stupéfaite qui arrive en accourant, qui était impressionnée. Qu'avez-vous à nous regarder? Toujours le thème du regard. Vous nous regardez comme si c'était nous par notre propre puissance. Ou grâce à notre piété, qui avions fait marcher cet homme. Qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme ça? Je pense qu'il leur dit aussi, regardez comment on est habillé. Voilà, ça ne va pas être très brillant, mais Pierre peut-être s'en fait une fierté. Je suis là comme témoin du Christ ressuscité. Et Pierre le dit bien, c'est la foi en lui qui l'a rétabli en pleine santé. Donc c'est très très important, parce que ça veut dire que, en regardant les apôtres, ce que l'on voit, c'est le mystère de l'Église. Et cependant, si c'est bien le Christ qui agit à travers eux, ce ne sont pas des instruments passifs. C'est-à-dire, oui, bah, Jésus, c'est lui qui fait tout. Hein. Moi, je suis vraiment nul, donc je vais faire le truc, mais j'y suis pas. C'est pas vrai. Pierre s'y investit, se donne. C'est le mystère de l'Église. C'est-à-dire, Jésus passe bien par des apôtres, par le ministère des apôtres. Ce ne sont pas des instruments purement passifs. Pour celui qui a la foi, il y a ce mystère de l'Église, reconnaître la puissance du Christ par l'Esprit-Saint, mais aussi reconnaître la place des disciples à une place qui est conséquente, qui est réelle. On a besoin de Pierre et de Jean pour que le miracle s'accomplisse. Et enfin, l'arrestation et la libération. Voilà. Qui finalement va reprendre cela, hein, que Pierre va expliquer davantage à ses interlocuteurs juifs. Alors évidemment, les prêtres, le commandant du temple et les sadducéens ne sont pas contents. Ils sont contrariés de les voir enseigner le peuple. On est au temple et ce n'est pas aux apôtres de donner les enseignements. Donc on comprend qu'ils sont un petit peu chatouilleux. Hein. Si je vois à la paroisse Sainte-Anne quelqu'un dire aux gens de s'asseoir, une foule nombreuse, et se mettre à parler sans être venu me demander mon avis, je vais dire, êtes-vous qui êtes-vous, hein, je vais dire, coupez les micros, hein, et venez me voir. Puis je vais demander à la personne de s'expliquer. Voilà. Hein, bon, pardon, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais on peut comprendre. Mais surtout, eux, ils savent déjà qui sont les apôtres, et peut-être qu'ils les regardent d'un mauvais œil. Eh bien, Pierre et Jean, qui vont se faire arrêter, vont saisir cette occasion pour prendre une nouvelle fois la parole. Ils sont remplis de l'Esprit-Saint. Alors on retrouve ce que Jésus avait annoncé au chapitre 12 des Actes des Apôtres. Quand vous serez conduits devant les synagogues, on vous arrêtera, vous aurez à rendre témoignage. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'Esprit-Saint. On a exactement ce qui était annoncé dans l'Évangile. Ce premier discours de Pierre devant le Sanhédrin répond à la question... Non, tout d'abord, je vais un peu trop vite, hein, Luc souligne la puissance de l'Esprit-Saint. Et ça, c'est très très important, hein, c'est un thème auquel il faut s'habituer dans les Actes des Apôtres. Hein, pour nous, parler de la puissance de l'Esprit-Saint qui agit et qui fait des merveilles, hein, on se dit, ça c'est un truc de charismatique. Alors, soit on appartient au renouveau charismatique, hein, parmi nous, ils disent, ben oui, on fait l'expérience d'un renouveau charismatique, la puissance de l'Esprit-Saint. Et ceux qui sont un peu moins... dans ce style, disent, eh ben, on vous le laisse, hein, nous on est plutôt pour l'Église, voilà, le pape, les évêques, la liturgie, bien carré comme il faut, une saine séparation des choses. Hein, quelqu'un qui m'avait dit à la veille de la Pentecôte, mon père, responsable d'un groupe charismatique, mon père, c'est demain c'est notre fête, hein, c'est la fête du renouveau charismatique. Oui, c'est la fête du renouveau charismatique, c'est aussi la fête de toute l'Église. Voilà, et demain la Pentecôte, c'est pas que le renouveau charismatique. Hein. Voilà, alors le renouveau charismatique nous a rappelé heureusement que l'Esprit Saint est puissant et qu'il agit avec puissance. Peut-être qu'on l'a quelquefois un peu oublié. Les Actes des Apôtres le montrent. Mais c'est vrai pour toute l'Église, c'est vrai pour l'action de tous les apôtres. Hein, il n'y aurait pas de pape, il n'y aurait pas d'évêque s'il n'y avait pas l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint agit avec puissance. Et il y a un mot qui le montre très bien, qui est très important dans les Actes, hein, c'est la parésia. C'est la parésia. Le terme grec parésia, ça veut dire assurance. L'auditoire est impressionné par l'assurance de ces hommes qui sont sans culture, comme on le leur fait délicatement remarquer, hein, mais ils parlent avec assurance. Quoi. Ils ne savent pas grand-chose, un peu comme Bernadette, hein, qui n'avait pas pu faire son catéchisme, Bernadette Soubirous, voilà, mais elle avait la puissance de l'Esprit-Saint en elle, on peut parler avec assurance. Hein, la liberté, l'audace que donne l'Esprit aux missionnaires, malgré les dangers. À la franchise chrétienne. Le dernier mot des Actes des Apôtres, c'est Paul qui parlait avec parésia. Le jour de la Pentecôte, chapitre 2, hein, des Actes, on l'a vu la dernière fois, ils se mettent à parler, ils parlaient avec assurance, avec parésia. On voit bien, quand quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint en lui, et quand il est divisé, je parlais de la division tout à l'heure, il ne peut pas parler avec parésia. L'Esprit Saint, il unifie notre cœur, il nous donne d'attester, de proclamer, comme je disais tout à l'heure, hein, avec assurance, les merveilles de Dieu. Pour vous dire, il y avait tellement de références que ça prenait presque une ligne. Je me suis dit, je vais leur épargner, donc j'ai supprimé. Mais vous pouvez faire la recherche dans les Actes, c'est un terme très important. Voilà. Alors, il y a le discours à la foule, mais il y a le discours devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin a posé la question, par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? Eh bien, Pierre va saisir l'occasion pour proclamer le clérigme, hein, avec assurance, hein, dans les deux discours. D'ailleurs, il y aura un deuxième discours devant le Sanhédrin au chapitre 5. Voilà. Hein, l'accent est moins sur la résurrection, comme on l'a souvent dans le clérigme, que sur le nom de Jésus. Hein, ce sera là, c'est par le nom de Jésus que je terminerai cette formation de ce jour, hein, l'enseignement de ce jour, hein, En réalité, ce qui va permettre aux apôtres d'accomplir ces merveilles, ces guérisons, de montrer que le royaume est là, de faire grandir la communauté, c'est que le nom de Jésus atteste que le Christ est toujours puissant, qu'il est toujours présent. Que le Christ est toujours présent. C'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par celui-ci et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. Et il termine par une puissante profession de foi. Ça, c'est une parole que vous devriez connaître par cœur si vous ne la connaissez pas déjà. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas d'autre nom donné aux hommes. Ce n'est pas un nom qui est magique, comme dans les rites de l'Antiquité. Prononcer le nom d'un dieu, c'était essayer de le faire venir pour en faire ce qu'on voulait. Le nom de Jésus, c'est plutôt la proclamation de celui dont on reconnaît la présence. Ceux qui ont reçu l'Esprit Saint agissent au nom de Jésus. Et c'est de cette manière que le salut est communiqué. Je conclue. Cette description de la communauté chrétienne va être très très importante dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que les Actes des Apôtres qui racontent la croissance de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre, on peut dire que l'existence de l'Église est coextensive avec la mission des apôtres. Partout où il y a des nouveaux chrétiens, c'est l'Église qui est là. Et là où il y a une communauté, il y aura une autre communauté qui va naître. C'est le marcottage, c'est dans le jardinage. Marcottage, c'est ça. Vous avez une branche comme ça, on va faire naître des racines, mais à partir de la petite branche centrale, et la deuxième petite plante procède de la première. C'est un exégète qui avait cette image que je crois assez juste.
Pour les fraisiers,
voilà, je crois que c'est à propos de ça. Donc quand vous voyez tous les fraisiers magnifiques, un jardin de fraisiers, ça nous fait rêver, eh bien vous vous dites qu'ils viennent tous d'un petit fraisier qui était au centre. Eh bien c'est ça l'Église, le concept de l'Église fraisier.
Voilà.
Ça va rester, mais l'image du marcottage, voilà. C'est dire que la communauté de Jérusalem, elle porte en elle ce qui sera partagé à toute l'Église. Le terme d'Église, je vais un peu au-delà du cours d'aujourd'hui, on est assez tôt, elle a en elle cette perfection et cette plénitude que donne l'Esprit Saint, avant d'être répandue parmi les nations. Il y a déjà la communauté de Jérusalem et dans cette plénitude. Elle est catholique. Parenthèse, catholique, je vous rappelle, je vous le dis à peu près à chaque fois, ça ne veut pas dire universel. Je m'agace quand j'entends ça. Universel, enfin, je précise, ça fait partie d'eux. Mais catholique veut dire plus que universel. Kat, holon, en grec, ça veut dire selon la totalité, selon la plénitude. L'Église a reçu la plénitude de l'Esprit Saint, la plénitude de la révélation, la plénitude des moyens du salut. Et évidemment, par conséquent, elle est universelle. Il y a bien ce sens-là dans le catéchisme de l'Église catholique. Mais l'Église est déjà catholique avant même que son expression ne soit universelle. Par certains côtés, Coca-Cola est universelle. Coca-Cola n'est pas catholique. Voilà. L'Église est catholique quand elle est à Jérusalem. Elle a reçu la plénitude du don de l'Esprit Saint. Mais cette perfection, cette plénitude comporte un dynamisme missionnaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Regarde-moi, dit Pierre au paralytique, ça veut dire à travers moi, tu vois l'Église, celle par qui Dieu continue de porter le salut à tous les hommes, qui est le fruit et le signe de ce salut. Voilà. Alors, est-ce que... C'est 10h15 ou 10h d'ailleurs, parce qu'il a dit 10h ou 10h15 tout à l'heure.
10h07.
Il a dit 10h. D'habitude, c'est 10h15. Pour aujourd'hui.
De toute façon, c'est l'heure du dernier métro.
Aujourd'hui, il n'y en a pas.
Comme il n'y a pas de métro.
Qu'est-ce que. Il a dit 10h. Ça me... Alors, vous allez voir si les complis ont commencé. Mais dans ce cas-là, je vous. Parce qu'il y avait une question.
Oui, il y a deux questions. La première, c'est par rapport au passage où hier et. ils ont rencontré, il y avait un impotent au bord de la route,
oui.
Qui leur a dit...
Près de la belle porte, oui.
Oui, en fait, l'impotent avait l'intention plutôt qu'il le guérisse. Il me semble que le texte précise plutôt qu'en fait, il avait demandé une aumône.
Oui.
Il lui dit, regarde-nous, nous avons mis en argent.
Oui, tout à fait. Oui, ça, je ne me suis pas du tout arrêté dessus. J'ai regardé le... La deuxième chose, c'est par rapport à Annie et